Bonsoir et bienvenue dans À votre avis, votre émission quotidienne de débat sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Ce soir, nous évoquons la suspension des ventes du cacao, une suspension décidée de concert par la Côte d'Ivoire et le Ghana. En raison, les deux pays exigent des prix plus élevés. Alors, ces deux pays, Côte d'Ivoire et Ghana, ont-ils raison de faire pression sur les acheteurs? Cela peut-il réellement bénéficier aux petits producteurs? Car c'est la raison. Ils souhaitent augmenter les prix pour, disent-ils, redonner plus aux producteurs. Est-ce que cela va être possible dans la réalité? Comment mieux protéger les matières premières sur le continent? Venez en discuter tout de suite avec nous. Venez partager vos idées en appelant le 001 202 205 26 33. Je répète, le 001 ou le plus 1 si vous nous appelez d'un téléphone portable. 202 205 26 33. Vous nous laissez vos coordonnées et bien entendu, on vous rappelle. Alors, vous êtes nombreux, bien sûr, à nous avoir laissé des messages, des avis sur notre page Facebook. Sur notre page Facebook et des auditeurs qui nous appellent. Je crois que nous avons déjà quelqu'un, mais je n'ai pas eu de... Nous avons quelqu'un à l'antenne? Je n'ai pas eu le nom. Allô?
Oui, écoute.
Bonsoir. À qui ai-je l'honneur?
Oui, c'est Junior Kinoumbé.
Monsieur Kinoumbé, bonsoir. Vous nous appelez de la RDC, c'est bien ça?
Oui, c'est en RDC toujours.
Très bien, très bien. Alors, dites-nous pourquoi vous nous appelez et pourquoi vous voulez participer à ce débat? Qu'est-ce qui vous paraît important?
Je pense que le débat m'intéresse, c'est une thématique importante parce que ça nous concerne tous, les pays africains, c'est pas seulement les Ghanaïens, les Ivoiriens, ça nous concerne tous. Élever le prix des cacao, je pense que les dirigeants ont jugé bon que non, le petit moyen qui gagne à travers le vente des cacao ne suffisent pas à ce qu'ils puissent développer leur pays. Et avant de le faire, je pense qu'il fallait passer par le dialogue et convoquer les acheteurs pour leur montrer l'intérêt des petits peuples et leur intérêt de développer le pays par le vente. Et après, c'est là qu'ils pourraient quand même augmenter. Mais si vous avez augmenté le prix avant même d'informer les acheteurs, là, ça serait une mauvaise option. C'est un bénéfice partagé entre les acheteurs et les vendeurs. Alors, il n'y aura pas de bénéfices si les acheteurs n'arrivent pas à acheter. Alors, je pense qu'il fallait procéder par un dialogue et, pour trouver une bonne solution.
Très bien, merci beaucoup Monsieur Kinoumbé. Vous nous appeliez de Matadi en RDC. Alors, une autre personne qui a été un auditeur fidèle de VOA Afrique, qui a été très intéressé par le sujet, il s'agit de Monsieur Mbouaki, qui lui nous écrit « Lorsqu'on exige des prix élevés, les acheteurs iront ailleurs où c'est moins cher ». Bonsoir, Monsieur Mbouaki.
Bonsoir, madame. Moi, je pense qu'il faut avoir une bonne politique commerciale. Vous savez, je suis une bonne mémoire dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis vendent des soja, je pense, si je ne m'abuse pas, si je ne me trompe pas, aux Chinois à prix élevé. Et les Chinois, ils sont allés acheter en Argentine et aujourd'hui à prix plus abordable. Donc, c'est tout ce que je vais prendre pour indiquer que tout le monde est à élever les prix. Parce que si on élève les prix, les acheteurs vont aller ailleurs.
Vous savez, il y a quand même quasiment une situation, pas de monopole bien entendu, mais en tout cas une forte domination du marché, puisque la Côte d'Ivoire et le Ghana produisent entre 60 et 70% des fèves. Donc ils sont quand même dans une position de force.
Oui, nous sommes dans une position de force humaine, vous savez, pour accueillir la clientèle. Et vous voyez la Chine, hein? La Chine est partout parce qu'ils vendent ces produits, ces services, ils vendent ces services, abordables. Ils continuent ces services. C'est pourquoi la Chine est partout. Contrairement aux Américains. Les Américains veulent conditionner, par exemple, la Goa à certains critères. C'est pourquoi c'est très difficile. Mais donc, je pense qu'il ne faut pas qu'il soit trop exorbitant. Mm. Il faut qu'ils aient les prix abordables afin de faciliter les achats. Mm. Moi, je trouve que cette politique-là n'est pas vraiment du tout bonne. C'est pour tuer leurs produits, la vente de leurs produits. Cela ne profite pas aux petits agriculteurs lorsqu'ils élèvent les prix. Parce que les acheteurs auront comme je disais, chercher ailleurs, même si la qualité n'est pas bonne là-bas ailleurs, mais à des prix qui soient accessibles à eux. Ils peuvent négocier, hein, fixer les prix en négociation et non pas chercher à écraser les acheteurs, madame Nathalie Gage.
Merci beaucoup, monsieur Mbouaki. Vous donniez un exemple, la ligne n'était pas très claire, mais vous donniez un exemple sur vos commentaires Facebook. Quand les Américains ont augmenté les prix du soja aux acheteurs chinois dans leur guerre commerciale, ces derniers sont allés au Brésil et en Argentine pour acheter donc du soja. Et les Américains subissent effectivement un manque à gagner. Et vous avez peur que les acheteurs du chocolatier fassent la même chose. Voilà. Alors, nous avons également Marie-Jeanne Abega. Bonsoir, madame Abega.
Bonsoir.
Alors, vous, ce sujet vous intéresse et vous êtes ce qui m'a marqué dans votre petit message sur notre page Facebook VOA Afrique, c'est que vous avez écrit la stratégie, c'est de cultiver ce que nous mangeons. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Est-ce que vous, pour vous, l'important, ça serait de transformer pour acquérir pour vendre un produit plus cher et donc amener plus de richesse dans le pays?
Moi, je pense que si on cultive ce que nous mangeons, par exemple nos maniocs, nos macabos, nos bananes plantains, on n'aurait pas de problème à faire écouler les produits sur le marché. Et étant donné que le cacao n'est pas africain, bon, nous cultivons le cacao pour vendre à d'autres personnes. C'est ce qui crée le problème. Alors, parce que nous sommes déjà habitués à des vastes plantations en Afrique, les cacaoyers, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'encourager la transformation de ce cacao pour ne pas se heurter, n'est-ce pas, aux difficultés d'écoulement des fèves sur le marché. Mais là, lorsque le Ghana et la Côte d'Ivoire décident de ne pas vendre les fèves, c'est les petits planteurs, les petits producteurs qui vont subir. Donc, nous appelons les États à trouver des mesures alternatives afin de payer de l'argent aux producteurs et trouver maintenant les moyens de traitement et de conservation de ces produits jusqu'à ce qu'ils trouvent un consensus à propos des ventes qu'ils vont effectuer.
Oui. Madame Abega, il y a beaucoup de bruit autour de vous, si vous pouvez essayer de vous mettre un petit peu à l'abri. Alors, vous parlez effectivement du prix donné aux petits producteurs. C'est l'argument donné par le Ghana et la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il s'agit pour vous que de belles paroles ou est-ce que réellement cette hausse des prix va vraiment bénéficier aux petits producteurs?
Les petits producteurs savent déjà que peut-être l'année antérieure, ils ont vendu le cacao à 1000 francs le kilogramme. Donc, ils ont fait le programme à partir de ça. Ils n'ont pas les gros moyens de se prendre en charge. C'est leur moyen de survie. Alors, si le pays producteur les pays producteurs qui sont le Ghana et la Côte d'Ivoire décident donc maintenant de bloquer le produit intérêt brut, ils n'ont qu'à maintenant à reverser cette somme à ces producteurs, afin de leur permettre de continuer à survivre. Maintenant, eux, ils trouvent les moyens de stockage, des moyens de stockage pour vendre le produit plus cher, ou alors qu'ils voient comment ils peuvent transformer les fèves en chocolat ou bien en poudre de cacao pour ne pas vendre les fèves. Déjà que lorsqu'on vend les fèves, on ne gagne pas trop. Alors que lorsqu'on vend le produit transformé, on gagne mieux. Donc, je pense que c'est ça qui va surtout encourager la transformation.
Et ça, c'est vraiment valable dans beaucoup des produits, des matières premières cultivées en Afrique. Je pense à la noix de cajou, je pense au karité. Il y a beaucoup de produits où, effectivement, si on encourage la transformation sur place, les pays africains vont pouvoir exporter des pays et les vendre beaucoup plus cher.
Oui, bien évidemment, il y a le café qu'on peut transformer. Et déjà que lorsqu'on a transformé, il y a les charges liées au café qui baissent aussi. Les coûts deviennent plus élevés. Par exemple, au lieu d'acheter 1 kg de cacao brut à 1000 francs, alors qu'on va acheter une petite boîte de chocolaté à 500 francs ou à 800 francs, mieux vaut transformer et le kilogramme qui peut te donner 5000 francs. Étant donné que le litre d'huile ici, là, je pense qu'on vend à 25000 francs, c'est pas. Alors que lorsque on transforme 1 kg de cacao, c'est à 1000 francs. Donc, mieux vaut encourager la transformation. Donc, moi, je pense que le tournant que le Ghana et la Côte d'Ivoire ont emprunté, ce tournant-là va amener les Africains à réfléchir sur quoi faire avec ce qu'ils ont produit.
Très bien. Merci beaucoup, Marie-Jeanne Abega, de votre participation.
À votre avis sur VOA Afrique. Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Et oui, vous êtes toujours en direct sur VOA Afrique dans À votre avis. Et aujourd'hui, nous évoquons la suspension des ventes du cacao par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ces deux pays exigeant des prix plus élevés pour, disent-ils, reverser plus d'argent aux petits producteurs. Alors, plein de questions suite à cette actualité. Ces deux pays ont-ils raison de faire pression sur les acheteurs? Est-ce que cela peut-il réellement bénéficier à ces petits agriculteurs, petits paysans? Et comment mieux protéger, bien sûr, les matières premières sur le continent? Un seul numéro pour venir en discuter en direct avec nous, le 001 202 205 26 33 ou le plus 1 202 205 26 33 si vous nous appelez d'un portable. Alors, nous avons également du Burkina Faso, Jean-Claude Tiendré Beogo, qui nous a appelé. Allô? Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous nous avez laissé un message, et pour vous, il s'agit surtout d'une belle initiative. Dites-nous pourquoi.
Oui, vraiment, c'est une belle initiative, dans la mesure où nos grands-parents sont toujours dans cette culture, et puis il n'y a toujours pas de développement conséquent. Donc, moi, je trouve qu'il faut vraiment que les agriculteurs de cacao essaient de se souder, que ceux de la Côte d'Ivoire et du Ghana puissent trouver un terrain d'entente et fixer un même prix. Pourquoi ils vont laisser les acheteurs venir les diviser, ou chacun va venir payer au prix qu'il veut. Donc, si c'est un prix homologué, vraiment juste, moi, je pense que les petits agriculteurs pourront bien s'en sortir dans cette affaire-là. Soit ils trouvent une autre solution, ils peuvent transformer cette situation-là, transformer ces produits sur place et puis essayer de vendre, comme disait Mme Abega. Là, c'est une autre solution aussi. Si il n'y a pas d'acheteurs, vraiment, on peut transformer ça en Afrique, pour que beaucoup de personnes puissent avoir un gain de cause. Il ne faut pas que ce soit nous, on cultive ici, on se fasse. fatigue, on n'arrive pas à gagner beaucoup de choses. Pourtant, ceux qui viennent acheter, ils achètent au prix qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de plus revenir vendre le produit.
Alors, pas exactement au prix qu'ils veulent. Hein. Il y a des prix qui sont fixés par le marché, par l'offre et la demande, spécialement pour le café et le cacao. Donc, ce n'est pas exactement les prix qu'ils veulent.
Hein. Actuellement, ils parlent qu'avant, ils payaient ça à 500, 600 francs. Parce que, bon, c'est un peu dérisoire. Tu vas prendre au moins toute une année pour faire la culture et puis après, bon, c'est un prix, c'est pas très très convaincant. Souvent, tu es obligé de vendre parce que tu as besoin de quelque chose. Si tu vois la souffrance que tu as fournie pour mettre ces plantes en place et puis avoir les fruits et puis tu dis de payer à un prix, 1,750 contre le kilo, ça pourrait arranger la situation. Donc,
alors,
selon ma vision, quoi.
La transformation des matières premières est effectivement une voie, mais c'est compliqué parce que, bien entendu, ça s'accompagne avec la construction d'usines, de mise en place de process, de techniques. Ça aussi, ça doit absolument être soutenu financièrement par les gouvernements.
Bon, je n'en dis pas, madame, mais ce sont les gouvernements qui devraient mettre ces industries en place. Ils se sont fait longtemps, depuis notre indépendance. Ils n'ont même pas changé à ça. Toujours, c'est des gens qui viennent payer, aller transformer ça pour nous revendre très, très cher. Si nos gouvernants pouvaient essayer de tourner voir ce côté-là aussi, ça allait créer la main d'œuvre, beaucoup de main d'œuvre en Afrique, surtout dans les pays où ce produit, le cacao est cultivé. Donc, c'est aux gouvernants, et puis essayer de trouver des bailleurs de fonds extérieurs pour qu'ils viennent s'implanter, et puis nous aussi, on va pouvoir s'en sortir, tirer bien les causes, quoi, si je veux bien dire.
Très bien. Merci beaucoup, monsieur Tiendré Béogo. Vous nous appeliez du Faso. Nous avons également Aboubacar Diakité qui nous a appelé. Bonsoir, monsieur Diakité.
Bonsoir, tous les auditeurs.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous?
Oui, je vous appelle de Bamako.
De Bamako, au Mali, très bien. Alors, dites-nous pourquoi vous voulez participer à ce débat et qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Moi, je pense qu'il faut homologuer effectivement les prix. Celui qui va effectivement en tout cas faire l'affaire des producteurs, nous savons que lorsque effectivement les producteurs ils sont en rang dispersé, effectivement, ça profite effectivement à la population. Certains ont rappelé tout à l'heure, effectivement, en ce qui concerne l'industrialisation vraiment des États, effectivement, les moyens sont dépôts. Je pense que le gouvernement effectivement, devrait penser à cela, effectivement, pour que les populations effectivement, puissent profiter davantage effectivement, à la production, puisque c'est dans ce sens-là que les produits sont bradés. Parce que ces gens, ils viennent effectivement acheter vraiment le produit à des prix dérisoires, effectivement. Du coup, les producteurs, effectivement, s'en sortent effectivement de vie. Je pense qu'il faut vraiment travailler dans ce sens-là.
Très bien. Merci beaucoup, monsieur Diakité. Vous nous appeliez donc de Bamako, au Mali. Nous avons également Bakary Keïta. Bonsoir, monsieur Keïta.
Ah, bonsoir.
Bonsoir. Vous nous appelez du Mali également?
Oui, la capitale également.
Ah, également, d'accord. Alors, dites-nous, est-ce que vous êtes du même avis que monsieur Diakité et qu'est-ce qui vous paraît important? Comment pourrait-on mieux protéger les matières premières du continent, selon vous?
Moi, quand même, je me range un peu quand même du côté des gouvernements. Il va falloir qu'on essaie quand même de valoriser quand même les produits locaux, là, parce que les agriculteurs font quand même des travaux vraiment colossaux, mais à la fin, quand même, ils sont mal rémunérés. Les acheteurs exportent et ensuite ils transforment ces matières premières. Ensuite, revendre aussi à des prix exorbitants, que ce soit vraiment les chocolats, les biscuits. Parce que, ouais, ils gagnent plus que les producteurs eux-mêmes. Donc, le gouvernement a tout à fait raison vraiment de protéger vraiment les producteurs, les cultivateurs. Mmh.
Alors, pour l'instant, il ne s'agit pas d'une protection. Pour l'instant, ils ont suspendu les ventes en espérant trouver, et on est dans une phase de négociation, en espérant aboutir à la négociation et fixer les prix à un certain niveau. On va bien entendu suivre ces négociations de très très près. Vous, au Mali, est-ce que vous avez quelle matière première vous pensez que le gouvernement devrait le plus protéger? Le karité?
c'est le coton et l'arachide, le coton et l'arachide, surtout le coton. Surtout le coton. Il y a beaucoup quand même qui cultivent le coton, mais à la fin quand même, le prix qu'on fixe vraiment, c'est vraiment un peu bas par rapport vraiment à ce que ces exportes gagnent mieux que ce qui cultivent vraiment le coton ici au Mali. Donc le gouvernement doit aussi fournir quand même beaucoup d'efforts pour rehausser vraiment le prix du coton.
Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Keïta, de votre participation à notre débat. Nous avons également Haruna Baldé. Bonsoir, Monsieur Baldé.
Oui, bonsoir, madame. Bonsoir à tous les auditeurs de la Zéro Afrique.
Bonsoir. Alors, vous avez essayé de nous joindre donc en direct. Pour vous, est-ce que c'est une bonne chose que ces deux pays fassent pression comme ça, juste avant la campagne? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou que ça comporte un certain nombre de risques?
Bon, oui, moi je salue l'initiative. Dans la mesure, d'abord, c'est une force économique qui, si les deux pays parviennent à avoir un accord sur un même prix, parce que c'est une force économique aussi, c'est la meilleure manière de protéger leurs ressources naturelles, c'est-à-dire avoir un même prix exporté. Parce qu'il y a un constat qui est là aujourd'hui, les matières premières en Afrique, les puissances étrangères viennent exploiter ça exporter ça et revenir en Afrique aussi pour vendre ça beaucoup plus cher. Donc si il y a les moyens, les outils techniques qui ont été mis en place en Afrique, c'est-à-dire les usines qu'on met en place en Afrique pour on transforme ici en Afrique afin qu'on puisse vendre ça à l'extérieur, ce serait beaucoup plus rentable. Il y aura un impact dans la société économiquement et sur le plan social en fait.
Donc vous, c'est vraiment l'importance, hein, c'est l'impact que ça peut avoir sur le pays. Et est-ce que vous trouvez aussi qu'il faut mettre l'emphase sur la transformation, c'est-à-dire mettre qu'il y ait plus d'usines, plus de moyens pour transformer ces matières premières et permettre de les exporter à des prix nettement supérieurs?
Oui, certainement, il faudra mettre en place beaucoup d'usines. Et non seulement ça va réduire le taux de chômage en Afrique, et aussi ça va rentabiliser économiquement, ça va rendre le pays beaucoup plus fort. Parce que imagine, je prends l'exemple de mon pays au Sénégal. Je prends l'exemple de mon pays au Sénégal, où on a l'arachide. Mais l'arachide est exporté à l'extérieur. Ils reviennent pour nous vendre ça, transformer ça en l'huile, ils reviennent à vendre beaucoup plus cher. C'est l'huile le plus cher. Ici au Sénégal, et même pourtant on produit les acides ici dans mon pays. Je pense que si vraiment les autorités politiques et étatiques parviennent vraiment à mettre en place des usines qui pourront transformer ces matières premières, ce serait beaucoup plus rentable en fait.
D'accord. Donc plus de moyens, ce que vous attendez, c'est que vraiment les autorités dégagent des moyens pour construire en fait des usines qui permettent une transformation des matières premières, hein, c'est bien ça?
Oui, certainement. Il faut qu'il y ait une bonne orientation politique, c'est-à-dire mettre en place des usines qui vraiment seront capables à répondre, c'est-à-dire à amagasiner ces produits, ces matières, etc. C'est pas aussi créer des usines, etc. Autant si la demande, c'est-à-dire les matières, sont supérieures à la capacité que les usines pourront produire, ce sera aussi un petit problème par rapport à cela. Parce qu'il faut aussi qu'il y ait des mesures nécessaires, prendre toutes les précautions qu'il faut pour vraiment arriver à un finalité en fait.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre participation à Monsieur Haruna Baldé. Vous nous appeliez du Sénégal. Voilà, c'est déjà la fin d'À votre avis. Je voudrais remercier Joselle Morissin, Michel Joseph et Georges Léonard Sagnot pour leur aide à la réalisation. Restez avec nous tout de suite à une nouvelle édition du Monde Aujourd'hui présentée par Nathalie Barge. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.